sommet de Copenhague doit être une réussite. La conférence de Copenhague, c'est le rendez-vous de l'humanité. Vous entendez parler de cet événement presque tous les jours, mais de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, du 7 au 18 décembre prochain aura lieu la conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Ce sera donc à Copenhague, la capitale du Danemark.
Mais pourquoi est-ce un événement si important? Quels sont les enjeux et les positionnements des différents acteurs qui y participent? C'est ce que nous allons vous expliquer dans cette émission avec une spécialiste, Karine Gavant. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la campagne climat à Greenpeace France. Alors finalement, c'est quoi cette conférence, cette COP15? Expliquez-nous en quelques mots. C'est la convention... Expliquez-nous, c'est une opération des Nations Unies.
Aujourd'hui, on a un texte, le protocole de Kyoto, qui est le seul texte qui permet de lutter contre le réchauffement climatique à l'échelle mondiale. Ce texte, il arrive à expiration dans les années qui viennent, et donc il faut négocier le prochain accord mondial qui va nous permettre de lutter contre le réchauffement climatique. Sauf que depuis la négociation du protocole de Kyoto, on a des éléments scientifiques qui nous montrent que le phénomène du réchauffement climatique est beaucoup plus rapide, beaucoup plus violent, beaucoup plus grave que prévu, et que donc il va falloir prendre des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire beaucoup plus ambitieuses et beaucoup plus drastiques. Et ce que nous disent les scientifiques, c'est qu'on a 5 ans pour agir. 5 ans, en fait, pour stopper la croissance des émissions de gaz à effet de serre qui sont en augmentation constante depuis des décennies. Et on a 5 ans, donc, pour atteindre un pic des émissions de gaz à effet de serre avant de les réduire de manière drastique à un niveau zéro d'ici à 2050. Et donc, précisément, ce sur quoi va s'accorder la communauté internationale en décembre prochain, c'est sur ce qu'on va faire dans les 5-10 prochaines années pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est essentiel, parce que si on n'arrive pas à ce pic des émissions, on n'arrivera pas à limiter l'augmentation des températures en deçà de 2 degrés. Et 2 degrés, c'est la limite établie par les scientifiques au-delà duquel on ne pourra plus du tout maîtriser les impacts.
On va redétailler tout ça, parce que là déjà c'est un petit peu compliqué. Mais par exemple, qui sera présent à cette conférence ?
Tous les pays du monde entier seront présents, y compris les États-Unis, qui n'avaient pas signé le protocole de Kyoto et qui doivent aujourd'hui rejoindre le processus de négociation internationale. Il y aura aussi les grands émergents comme l'Inde, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud, qui doivent commencer à prendre des actions pour réduire leurs propres émissions de gaz à effet de serre. Et il y aura tous les pays victimes en Afrique, dans les îles du Pacifique, qui sont les moins responsables, mais qui sont les premières victimes.
Donc, si je reprends ce que je crois avoir compris, le seul outil dont nous disposons aujourd'hui, c'est le protocole de Kyoto pour lutter contre le réchauffement climatique. Or, il se trouve que ce protocole de Kyoto, dans lequel on n'a que certains pays, va de toute façon s'arrêter très prochainement. Et à ce moment-là, on n'aura plus rien. Hein, c'est tout l'enjeu de Copenhague.
En fait, il va s'arrêter en 2012. Or, on sait très bien que s'il y a un accord à Copenhague en 2009, il faut 3 ans, une fois que l'accord est signé, pour que tous les pays le ratifient. Donc, on arrive à 2012. Donc, s'il n'y a aucun accord à Copenhague, il n'y a pas d'après Kyoto.
Il y aura un trou.
Il n'y aura pas d'accord pour prendre le relais si on négocie pas d'ici à la fin de l'année la suite du protocole de Kyoto. En effet, puisque le processus de ratification et donc d'entrée en vigueur de l'accord, il va être extrêmement long à négocier.
Ça sera forcément un protocole de Kyoto 2 ou ça peut être autre chose ?
Ça sera a priori pas un protocole de Kyoto 2, puisque les États-Unis ne signeront pas un protocole de Kyoto 2. Ce sera certainement un protocole de Copenhague. Il y a différentes formes juridiques qui sont en discussion. Mais l'essentiel, c'est que l'ensemble de la communauté internationale s'accorde sur un objectif mondial de réduction des émissions.
Oui, parce qu'il ne suffit pas qu'un pays fasse un effort dans son coin. C'est un enjeu planétaire. Donc il faut que tout le monde s'accorde. C'est pour ça que c'est 187 pays qui vont se retrouver à Copenhague. Il faut qu'ils trouvent des points d'accord. Et c'est là où c'est très très compliqué.
C'est là où c'est très compliqué. En fait, les deux points essentiels, c'est dans quelle mesure les pays industrialisés qui sont responsables historiquement du phénomène, qui restent quand même les plus gros pollueurs quand on regarde les émissions par habitant, vont se montrer exemplaires. Et le deuxième point, c'est comment est-ce qu'ils vont soutenir les autres, les pays en développement, pour leur permettre de faire face à la crise climatique. Et c'est les deux points, les deux nœuds de la négociation actuelle qui ne sont toujours pas débloqués.
Alors, cette appréciation de la crise, elle est variable parce que c'est vrai que les scientifiques nous disent, on est là dans un scénario, si on prend le dernier scénario, le quatrième rapport du GIEC, qui fait cette expertise scientifique, on est là dans une variation possible entre 2 et 6 degrés. Aujourd'hui, il s'avérerait qu'on sera peut-être au-delà,
mais ça veut dire
très probablement de ces 6 degrés. Oui. Mais peut-être faut réexpliquer effectivement à quoi ça correspond? On parle de température moyenne globale.
Oui, on parle d'augmentation des températures à l'échelle planétaire. Et la limite qui a été fixée par les scientifiques, qui vient enfin d'être reconnue par le G8, c'est 2 degrés. À savoir qu'on sait qu'on est dans un scénario qui probablement va nous amener à une augmentation des températures mondiale de 2 degrés. Si on dépasse cette limite de 2 degrés, on va faire face à des impacts en matière de réchauffement climatique que l'homme ne pourra pas maîtriser. On le voit déjà, ça va beaucoup plus vite que prévu. La fonte des glaces s'accélère en Arctique, en Antarctique. Il y a déjà 300 000 morts chaque année dues aux impacts du réchauffement climatique. On estime qu'il y a 10 millions de personnes qui vont se retrouver sur les routes de l'Exode à cause du réchauffement climatique dans les 2 ans qui viennent. Donc on voit déjà qu'avec une augmentation minime des températures, on fait face à des impacts qui sont difficiles à maîtriser. Si on dépasse le 2 degrés, on ne pourra plus du tout maîtriser le phénomène.
2 degrés, ça ne veut pas dire qu'on passe localement de 18 à 20, ça veut dire que c'est 2 degrés au niveau de la planète, donc il y a des endroits où c'est plus 15 degrés et d'autres endroits où ça peut être moins même, d'ailleurs, des baisses de température. C'est le climat qui se dérègle, en fait.
C'est le climat qui se dérègle. C'est 2 degrés, c'est une moyenne mondiale. Le problème, c'est les phénomènes de dérèglement qui s'en suivent. La multiplication des ouragans, des inondations, des sécheresses et de tous ces phénomènes climatiques qui sont extrêmes.
Alors, pour comprendre justement les conséquences du réchauffement climatique, nous vous proposons maintenant de partir en Asie du Sud-Est, où sur à peine 1% de la surface terrestre, on trouve les 3/4 des espèces connues de corail, la moitié des mangroves au monde et plus de 3000 espèces de poissons. C'est le triangle corallien, un espace de 6 millions de kilomètres carrés, plus de 10 fois la France, coincé entre Bali, l'Indonésie, le nord des Philippines et jusqu'aux îles Salomon. C'est l'endroit, figurez-vous, la biodiversité marine est la plus riche au monde, à tel point que les scientifiques la comparent, ça va vous plaire Arnaud, à la forêt amazonienne version sous-marine. Mais cet endroit est menacé par le réchauffement du climat de la planète, comme vous allez l'entendre dans ce reportage de Solène Honorine dans le parc national de Bunaken en Indonésie, en plein cœur du triangle.
Le Grand Bleu est un trou noir. Alors que les océans et les mers du globe absorbent le tiers des émissions annuelles de carbone qui sont essentielles à la régulation du climat, il reste très mal connu des scientifiques. La preuve, 95% des plantes et animaux qui vivent dans les océans n'ont même pas de nom. Cela va de même pour les zones les plus riches en vie, les récifs coralliens et surtout le triangle corallien, explique Nancy Knowlton, biologiste au Smithsonian Institute de Washington.
Environ le quart de tout ce qui vit dans l'océan vit sur cet écosystème. En termes de nombre d'espèces, c'est probablement entre 1 et 9 millions. En fait, on n'en a aucune idée. Les deux estimations publiées sont basées sur une extrapolation liée au nombre d'insectes vivant dans les arbres des forêts tropicales et à un décompte partiel de tout ce qui vivait dans un aquarium des États-Unis. C'est de là que vient l'évaluation de 1 à 9 millions, mais elle est très vague.
La moitié des coraux qui existent dans le monde se trouvent au sein du triangle corallien. C'est donc une zone cruciale pour l'équilibre biologique marin, même au-delà du triangle lui-même, car il fonctionne comme une véritable pouponnière des océans, une zone particulièrement propice à la reproduction des poissons et autres créatures marines. Par exemple, un tiers des thons qui sont capturés chaque année dans le monde sont nés ici. Le mois dernier, les 6 pays qui englobent le triangle corallien, Indonésie, Malaisie, Philippines, Timor-Leste, Îles Salomon et Papouasie-Nouvelle-Guinée, ont donc signé une convention qui leur permettra de protéger ensemble ce vaste espace. Nancy Knowlton applaudit cette initiative.
Dans les Caraïbes, on a perdu 80% des coraux vivants sur les 50 dernières années. Dans le Pacifique, on en a perdu environ la moitié. En fait, les récifs coralliens sont encore en plus mauvais état que nos forêts tropicales. Le triangle corallien est une zone extrêmement importante. C'est de très loin la zone marine la plus riche en biodiversité. Donc si vous devez protéger un endroit, c'est celui-ci.
Il est 8h du matin. Une demi-douzaine de bateaux oscillent sur la baie de Bunaken, à l'ombre du volcan Manadotua. À quelques mètres à peine, le turquoise de la mer cesse brutalement, laissant place à un bleu profond. C'est la frontière entre la baie et l'océan, marquée par la barrière de corail qui est incrustée le long d'un mur qui plonge jusqu'à 80 mètres de fond. Sur les bateaux, des silhouettes engrossées dans des combinaisons noires préparent leur matériel. Une fois leur harnachement solidement attaché aux lourdes bouteilles argentées, ils se rassemblent autour de leur guide.
Cet endroit ici, on l'appelle mandoline. C'est une plongée le long du mur. Alors j'espère qu'on pourra voir des requins ici. Généralement, il y en a beaucoup. Et aussi des raies, aigles et des poissons Napoléon.
Le parc national de Bunaken se trouve au cœur du triangle corallien, sur la pointe nord de la grande île indonésienne de Sulawesi. 11 000 visiteurs y viennent chaque année, généralement pour plonger le long du mur de corail qui encercle Bunaken, l'un des plus beaux sites de plongée au monde. Sous l'eau, le paysage est magnifique. Chaque millimètre du mur de corail a été colonisé par des myriades d'organismes, bleus, jaunes, verts ou rouges, picorés par de vastes bancs de poissons. En 1991, lors de la création du parc, c'était loin d'être le cas. Mais 18 ans ont passé, durant lesquels l'interdiction de pêcher, et surtout d'utiliser des techniques de pêche destructrices, comme les explosifs ou le poison, a permis à l'écosystème de prospérer. La gestion du parc national implique directement les 30 000 personnes qui vivent à l'intérieur de ses frontières. Et ils en tirent un grand bénéfice, explique Jusat Poludu, le représentant au sein de l'organisme de gestion du parc.
Avant, les gros poissons avaient pratiquement disparu, on pouvait pêcher que des petits. Mais maintenant, on attrape à nouveau de beaux gros poissons parce que l'endroit est bien organisé grâce au système de zonage. Il y a une zone où il est interdit de pêcher. Du coup, les poissons qui y restent ont le temps de bien grandir. Et lorsqu'ils sortent de cette zone et qu'ils viennent dans la zone réservée aux pêcheurs locaux, ben là, on peut les attraper.
Les zones comme le parc national de Bunaken sont essentielles à la survie des récifs coralliens. Mais elles sont rares à l'échelle mondiale, puisqu'elles ne recouvrent qu'un petit pourcent des mers et océans du globe. Or, pour Jacqueline Adler, de l'Organisation des Nations Unies pour l'Environnement, il faudrait idéalement 10 à 30% de zones protégées pour permettre à la vie marine de résister aux chocs que leur infligent les activités humaines via la surpêche ou la pollution. C'est ce que les scientifiques appellent la résilience des écosystèmes.
Ils jouent un rôle très important dans le maintien des écosystèmes. L'idée, c'est de créer des zones qui protègent les récifs coralliens. Lorsque le réchauffement climatique se fera vraiment sentir, si nous avons des endroits qui sont en excellentes conditions, ils pourront survivre à ce choc et ils constitueront une zone d'où la vie pourra repartir afin que nous ayons toujours des récifs coralliens dans le monde.
Une heure a passé et les plongeurs remontent dans leur bateau. Parmi eux, Ove Ugulberg, qui a des étoiles dans les yeux lorsqu'il décrit les paysages qu'il a eu la chance d'explorer.
Quand on plonge ici, c'est superbe. Les coraux sont en excellente santé. Vous pouvez voir tous ces poissons. Il y a une myriade d'espèces différentes. C'est simplement fantastique. Ça rivalise avec la Grande Barrière de Corail, là d'où je viens, en Australie.
Ove n'en est pas à sa première plongée. C'est un professeur en sciences marines à l'université de Queensland, spécialiste des massifs coralliens et ardent avocat de la création de vastes zones protégées comme celle de Bunaken.
Nous, les hommes, nous infligeons sans cesse des stress aux massifs coralliens. Et peu à peu, ils perdent leur capacité de se remettre de ces chocs. Le rôle d'un endroit comme Bunaken, c'est de mettre en place des endroits protégés qui peuvent développer la capacité de résistance naturelle des écosystèmes. Il faut qu'ils aient une grande biodiversité, une large population de poissons et d'oursins. Une fois que ceci est mis en place, alors les récifs deviennent de nouveau très forts.
L'ONG écologiste WWF a récemment rendu public les résultats d'une vaste enquête dirigée par Hof sur les conséquences du réchauffement climatique sur les massifs coralliens, notamment au sein du triangle. Selon cette enquête, tout n'est pas perdu. Si les négociations de Copenhague en décembre prochain parviennent à mettre en place un accord audacieux pour remplacer le protocole de Kyoto et limiter les émissions de carbone dans l'atmosphère, les générations futures pourront, elles aussi, apprécier les fonds marins comme celui de Bunaken. Mais dans le cas contraire, cela pourrait mener à la catastrophe.
Lorsque vous prenez en compte tous les stress liés à la surpêche, la pollution, et que vous ajoutez le réchauffement climatique, alors toutes ces richesses disparaissent très vite. Si j'imagine un monde où l'on n'a pas pris soin de nos coraux, et qu'en plus nos dirigeants nous laissent tomber à Copenhague, tout ce que nous aurions à voir ici, eh bien ce serait ce restaurant, là où nous nous trouvons en ce moment, mais sous l'eau. On verrait un récif totalement dévasté, il n'y aurait plus de mangroves. Et qu'est-ce qui arriverait à cette centaine de millions de personnes qui vivent dans le triangle? La seule conclusion possible, c'est qu'ils deviendraient très pauvres, tous ces gens, et migreraient vers des grandes villes, s'ils en avaient les moyens, bien sûr.
Car les océans ne sont pas qu'un parc d'amusement pour touristes fortunés, loin de là. 100 millions de personnes vivent des produits de la mer dans le triangle corallien, et des millions d'autres en tirent aussi une source de revenus et de nourriture, puisque dans un monde globalisé, Les poissons qui y grandissent finissent dans les étalages des magasins situés à des milliers de kilomètres de là. Bref, le triangle corallien n'est pas seulement un trésor écologique, c'est aussi un atout économique, d'où la nécessité de protéger cette zone et aussi plus globalement les océans. Christophe Lefebvre, de l'Union mondiale pour la nature.
Les océans absorbent environ 30% du carbone de la planète, donc c'est un rôle quand même assez important, au moins aussi important que les forêts. Et cette absorption n'est possible parce qu'il y a de la vie marine, parce qu'il y a du phytoplancton, parce qu'il y a des algues, parce qu'il y a des espèces marines qui séquestrent le carbone. Donc s'il y a une altération des écosystèmes et donc une diminution de la vie marine, il est évident que les écosystèmes océaniques n'arriveront plus à absorber ce carbone. Et l'autre phénomène, c'est que si l'effet de serre continue, c'est-à-dire l'augmentation du taux de carbone augmente, les océans ne pouvant plus absorber ce carbone, il va s'acidifier. Et en s'acidifiant, il va encore contribuer à la dégradation des écosystèmes et de la vie marine. Donc ça peut être un phénomène exponentiel. C'est pour ça que c'est assez préoccupant et qu'il faut réagir pour maintenir cet équilibre et faire en sorte que les océans gardent leur rôle de régulateur.
Lors de la conférence mondiale sur les océans, qui s'est déroulée en mai en Indonésie, la communauté internationale a émis un appel pour protéger les océans. Car il s'agit d'un enjeu qui concerne tout le monde, et pas seulement les villageois comme Josak, qui vit à la lisière du parc national de Bunaken.
Oui, effectivement, lorsqu'on est pêcheur ici, qu'on entend parler du réchauffement climatique, tout le monde est un peu inquiet. Qu'est-ce qui va nous arriver demain, dans le futur? Qu'est-ce qui va vraiment arriver? Nous ici, on a besoin d'être bien informés sur ce que l'on doit faire.
Sauver les océans pour sauver la planète, tout ça qu'on est conscient. Le prochain pas à faire sera à Copenhague dans 6 mois. Il faudra alors une action volontariste de la part de la communauté internationale pour réduire les émissions de carbone, sans quoi les efforts des 30 000 habitants du parc national de Bunaken auront été vains pour réduire la pression des pêcheurs, permettre aux poissons de grandir, aux coraux de prospérer et aux océans de continuer leur rôle de régulateur du climat. C'est pas du vent.
Karine Gavant, on entend bien à travers ce reportage l'urgence de lutter contre le réchauffement climatique.
Oui, ce qui se passe dans le triangle corallien est très emblématique des enjeux auxquels on a à faire face. Là, on a 100 millions de personnes qui risquent de se retrouver sur la route parce qu'à cause de l'élévation du niveau des mers, elles risquent de perdre leur maison, elles risquent de perdre leur emploi, elles risquent de perdre aussi les moyens de se nourrir. Donc qu'est-ce qu'on va faire de ces millions de personnes? Surtout quand on voit les politiques migratoires qui sont adoptées au niveau de l'Europe, on n'est pas du tout prêt à accueillir ces gens qu'on force à se mettre sur la route.
Alors, on le disait au début de cette émission et on vient de l'entendre dans ce reportage. Dans ce reportage, le grand rendez-vous, c'est évidemment la conférence de Copenhague qui aura lieu au mois de décembre. Alors, il faut bien comprendre quels sont les différents enjeux et surtout quelles sont les différentes positions des différents pays qui vont participer. En gros, pour simplifier, il y a 3 groupes de pays.
Oui, tout à fait. Les pays industrialisés d'un côté, notamment les pays du G8, qui sont responsables de 60% des émissions de gaz à effet de serre qui sont aujourd'hui dans l'atmosphère. Donc ils ont une responsabilité historique dans le phénomène qui est extrêmement clair. Ensuite, il y a les pays dits émergents, comme la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil. On dit souvent que la Chine est devenue le premier pollueur à l'échelle de la planète, ce qui est vrai. Donc, c'est important que ces pays-là prennent aussi des actions pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais il faut relativiser le rôle de ces grands émergents dans le phénomène.
Et puis, surtout si on divise par nombre d'habitants, évidemment.
Voilà. Et ensuite, il y a les pays en développement. Enfin, les pays les plus démunis, notamment en Afrique, dans les îles du Pacifique, qui, eux, ont très très peu contribué au phénomène. Mais l'ironie du sort veut que ce sont d'abord les premières victimes et les moins armées pour faire face à ce phénomène du réchauffement climatique.
Alors, on va essayer de voir, justement, groupe par groupe, quelles sont les positions de chacun. Alors, on va commencer par les pays industrialisés, puisque lors du G8 qui s'est tenu la semaine dernière en Italie, ces pays sont tous mis d'accord, sauf la Russie, à réduire de 80% leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Alors, tout va bien pour ces pays. Ils sont sur la bonne voie, c'est réglé, non?
À les entendre, c'est ce qu'on pourrait croire. Quand on y regarde d'un petit peu plus près, on se rend compte que tout l'enjeu, c'était qu'est-ce qu'ils vont faire dans les années qui viennent, dans les 5-6 ans qui viennent, les pays du G8. Et là, ils nous parlent de projection à 2050 de leur émission de gaz à effet de serre. C'est intéressant, mais c'est pas là qu'on les attend. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'ils vont faire dans les 5 ans qui viennent, puisque, encore une fois, ce que nous disent les scientifiques, c'est qu'on a 5 ans pour stopper la croissance des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il va falloir agir très vite. Et là-dessus, le G8 a échoué à prendre des engagements forts et concrets. C'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas mis d'argent sur la table pour les pays en développement. Et on sait que c'est le deuxième nœud de la négociation. Si on espère une action des pays en développement, il faut aussi les soutenir financièrement, techniquement, pour les aider à ne pas reproduire le modèle que nous, on a construit et qui est complètement dépassé aujourd'hui, quoi.
Alors, dans ce groupe du G8, il y a les États-Unis. Alors, les États-Unis, ça a suscité beaucoup d'espoir, hein, quand, avec l'arrivée de Barack Obama. Maintenant, est-ce que ces espoirs sont vraiment satisfaits aujourd'hui ?
Il faut peut-être rappeler effectivement ce qui s'est passé avec le gouvernement précédent. Hein. Il faut savoir qu'évidemment qu'avec le gouvernement Bush, oui, on était dans une politique extrêmement différente, d'où changement complet. On a l'impression que là, enfin, ça va démarrer. Et finalement, ça n'a pas beaucoup d'impact.
Finalement, on est déçu dans la mesure où l'objectif qui a été posé sur la table aujourd'hui par les États-Unis, c'est un objectif de réduction de 4% des émissions d'ici à 2020. Alors, sans rentrer trop dans le détail, ce que nous disent les scientifiques, c'est qu'il faut les réduire de 40% d'ici à 2020, les émissions des pays industrialisés. Donc on est extrêmement loin du compte. Et là, on ne peut pas dire que les États-Unis font leur part du travail. S'ils restent à un niveau de moins 4% de réduction de leurs émissions. La bonne nouvelle, c'est qu'Obama, il peut aussi contourner le Congrès et le Sénat américain et qu'il a d'autres moyens, comme la loi sur l'air, qui peuvent lui permettre d'afficher un objectif plus ambitieux de la part des États-Unis. Donc c'est tout l'enjeu. On sait qu'on ne va pas pouvoir changer la science du réchauffement climatique. On sait qu'on peut changer la politique et on travaille d'arrache-pied pour essayer de convaincre Obama d'aller plus loin.
Si on récapitule, pour être très clair, les pays industrialisés proposent, au niveau européen et au niveau américain, quoi par rapport à Copenhague ?
En gros, là, si on fait la moyenne, ils sont à un objectif de moins 10% de leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020, quand il faut moins 40% selon les scientifiques. Donc on est encore très loin du compte de ce point de vue-là.
Alors les pays émergents, autre groupe, donc les pays émergents, c'est la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud. Alors lors du G8 la semaine dernière, qui s'est tenu en Italie, on a eu l'impression que ces pays refusaient de s'engager sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Alors quelle est la stratégie de ces pays-là par rapport à Copenhague?
La stratégie de ces pays-là, c'est qu'ils sont exprimés très clairement depuis des mois déjà. Tant qu'on ne saura pas ce que font les pays du G8, qui sont les premiers responsables à court terme, ils refuseront de s'engager sur des actions contraignantes de réduction de leurs propres émissions. Et à juste titre, parce qu'il y a une responsabilité historique des pays industrialisés qui doit être assumée. Et on se cache souvent derrière la Chine. C'est l'excuse principale pour justifier le manque d'allant des pays industrialisés. Mais juste un chiffre, quoi. Un Chinois, il émet 4 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre qu'un Américain, 2 fois moins qu'un Européen. Et contrairement à ce qu'on peut croire, la Chine agit pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Ils ont déjà doublé la capacité en matière de production des énergies renouvelables ces dernières années. Ils construisent une éolienne toutes les 2 heures, donc ils ne font pas que construire des centrales à charbon.
Donc on a vraiment 2 philosophies qui s'affrontent. Hein. D'un côté, donc, les pays industrialisés qui disent il va falloir maintenant que tout le monde s'y mette et il faut aussi que ces pays prennent leur part. Et ces pays disent, oui, mais enfin, attendez, le problème, il vient essentiellement d'abord de chez vous. Donc c'est à vous de prendre vos responsabilités et puis nous, après, on verra comment on suit. Hein, c'est un petit peu
voilà, tout le monde se regarde en chien de faïence. Qui va faire le premier pas? Pour nous, c'est très clair, c'est d'abord aux pays du G8 de faire le premier pas et de poser des cartes sur la table.
Alors, troisième groupe de pays, les pays en voie de développement et surtout l'Afrique. Alors, c'est ceux que l'on entend le moins et qui pourtant ont beaucoup à gagner dans ces négociations. Parce que,
ils d'une
part, ce
beaucoup.
Sont les premiers impactés par le changement climatique, hein, déforestation, désertification, etc. Mais ils ont beaucoup à gagner parce que eux, ils ont toute leur énergie à construire.
Il y a plusieurs choses. C'est que déjà, c'est les premières victimes des impacts des changements climatiques. Donc il faut d'abord les aider à faire face à ces impacts. Et notamment, par exemple, à préparer les zones côtières, à faire face à l'élévation du niveau des mers, à gérer l'exode des populations qui sont dans des zones qui sont complètement désertifiées. Et de plus en plus, il y a tout cet enjeu-là. Quel argent on va leur donner pour les aider à s'adapter aux impacts des changements climatiques? C'est aussi des enjeux d'aide au développement. Hein, parce que quand on parle d'adaptation aux impacts, on parle aussi aussi d'aide au développement. Et ensuite, il y a comment on les aide à se développer, à accéder à un confort énergétique qui est légitime, qui est souhaitable, sans pour autant répéter les mêmes erreurs que nous. Parce qu'il y a 500 000 personnes qui n'ont pas d'accès à l'électricité. Qu'est-ce qu'on fait si on leur donne accès à une électricité fossile?
Sur 930 millions d'Africains, par exemple, il y a seulement 530 millions qui n'ont pas accès à l'électricité.
530 millions, oui, pas 530 000, en effet. Et tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on évite qu'ils répètent le même modèle que nous? Parce que si tout le monde vivait comme nous, on vit en Occident, il faudrait 5 planètes pour subvenir aux besoins énergétiques. C'est juste impensable.
Alors, on voit différents chiffres, puisque donc ce sont les pays industrialisés qui doivent payer, puisque ce sont les pollueurs historiques, on l'a expliqué. Donc, on voit des chiffres, ça va de 100 à 150 milliards par an qu'il faudrait donner, notamment à l'Afrique, pour l'aider à se développer et à faire face au changement climatique. C'est de cet ordre-là.
Ce dont on parle, c'est effectivement une somme qui est équivalente à un peu plus de 100 milliards d'euros chaque année pour aider les pays en développement à protéger leurs forêts, à s'adapter aux impacts et puis à développer un modèle sobre en carbone. Mais juste un chiffre, ça revient à peu près, si on regarde une part équitable pour la France, à 4 milliards d'euros chaque année. Et la France vient de voter une loi qui vise à dépenser 30 milliards d'euros chaque année pour renforcer l'équipement militaire. Donc c'est des sommes qui sont très relatives quand on regarde ce qui est dépensé dans d'autres domaines beaucoup moins vitaux que ceux qui engagent la question du réchauffement climatique.
Alors peut-être pour conclure, Karine Gavan, où est-ce qu'on en est, je veux dire, à l'heure où nous parlons, je veux dire, entre ces trois protagonistes?
Très rapidement, il nous reste 30 secondes.
Il nous reste un peu plus de 100 jours pour finir la négociation. Toute la question, c'est le rendez-vous de septembre où tous les chefs d'État seront à la table du monde entier pour accélérer la négociation sur le réchauffement climatique. Donc on attend un signe fort des pays du G8.
Merci Karine Gavan pour ce cours de négociation climatique. C'est pas du vent, referme ses voiles pour cette semaine. Lundi, nous commenterons l'actualité avec la navigatrice Isabelle Autissier. Nous partirons sur les chemins des Calanques de Marseille.
Passez un bon week-end et n'hésitez pas à nous écrire sur c'est pas du vent@rfi.fr. À lundi donc, même